téléspectateurs, j'en ai déduit cette main sur le cœur des Bleus était leur manière à eux d'exprimer leur solidarité avec le président de la République, victime d'un incident cardiovasculaire, justement. Et là, comme beaucoup de Français, je me suis dit, saperlipopette, heureusement qu'il n'a pas été hospitalisé pour une crise d'hémorroïde. Hein. L'hommage des Bleus à la douleur présidentielle en aurait été sérieusement modifié au niveau de la télégénie. Comment avons-nous pu croire une seconde que le chef de l'État ait pu avoir l'idée saugrenue de nommer à Matignon un grand couillon en caleçon de bain, capable d'aller alors, se baigner en Bretagne à 9h du matin?
On va couper, l'émission Le Fou du Roi, comme nous l'avions annoncé tout à l'heure, parce que le président Chirac est en train de sortir de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Cette sortie était annoncée pour la fin de la matinée. Nous y voilà. Nous voyons, à l'heure qu'il est sur les images de la télévision, le président de la République qui sort de l'hôpital. Il parle avec un certain nombre de conseillers. Il y a son épouse Bernadette qui est là également, ainsi que, j'imagine, du personnel de l'hôpital.
Voilà, je vous appelle parce que je suis furieux de voir qu'on interrompt une émission parce que notre président de la République sort de l'hôpital en bonne santé. Bon, s'il était sorti les pieds devant, c'était logique qu'on arrête toutes les émissions. Mais là, il est en bonne santé. On interrompt une émission, serait-ce que France Inter est devenue complètement à la solde du gouvernement. Bon, ben voilà, je suis assez en colère, mais je vous salue tous. Au revoir.
Oui, monsieur Mermet, bonjour, c'est Thierry Boisvert à Périgueux. Juste pour vous dire que ma grand-mère, qui a 93 ans, est sortie tout à l'heure là, de l'hôpital. Elle a eu, la semaine dernière, elle a eu un accident cardiovasculaire et je l'ai ramenée chez elle et je l'ai aidée à monter l'escalier et on a mangé. Et puis voilà, il y avait personne de France Bleu Périgord pour l'accueillir. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, je voulais vous signaler qu'une infirmière de 52 ans et une retraitée solidaire de 74 ans font la grève de la faim depuis 17 jours, installées dans un camping-car près des urgences de l'hôpital de Royan. Ceci pour protester contre la fermeture de la chirurgie à l'hôpital de Royan, au bénéfice du privé. Les grévistes se sentent soutenus par la population. Et le comité de défense qui s'est constitué a déjà recueilli 14 000 signatures. À ce jour, les politiques n'ont pas beaucoup réagi. Et nous sommes très, très inquiets pour la santé de ces deux personnes. Merci pour toutes vos émissions et à très bientôt.
Il a raison, Sarkozy. C'est très facile de baisser le chômage, radier les chômeurs, les installer au RMI. Puisque son modèle, c'est Thatcher et Reagan, il faut convertir les RMI en handicapés à vie. Donc, ils ne seront plus embauchables. Je connais le problème des pays anglo-saxons. J'ai vécu 18 ans au Canada et mon ex-mari, qui ne voulait pas travailler, a été obligé d'accepter d'être considéré comme handicapé à vie pour continuer à recevoir le RMI. Donc, en Angleterre, 2 700 000 RMistes handicapés à vie qui ne seront pas comptabilisés au chômage. Il reste donc 500 000 chômeurs et on arrive à 5%. Pas de SMIG, très faible couverture sociale. En France, comme les jeunes ne pourront plus se payer les loyers, il faudra inventer des foyers ou des logements communautaires comme en Russie. Faut pas oublier que son frère est numéro 2 au MEDEF. Les jeunes ont intérêt à bouser. C'est eux qui vont y goûter. Non, Daniel, on n'a pas le cul sorti des ronces. Au revoir, c'est Marie-Paul de Villejuif.
Jean-Pierre à Saint-Germain-en-Laye. Alors j'en profite quand même pour signaler une perle étonnante dans la bouche, pas étonnante d'ailleurs, de Laurence Parisot, la nouvelle présidente du MEDEF, qui a dit textuellement ceci dans le Figaro supplément économie du mardi 30 août. Et je laisse les auditeurs apprécier ce commentaire. Je cite « La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?» Fin de citation. Au revoir.
Voilà, bravo. Très bien. Ah, vous êtes à l'affût, hein, quand même. Et vous êtes à l'affût aussi de France Inter. Vous n'en loupez pas une. Raison de plus pour vous retrouver, amis auditeurs, avec ceux qui habitent dans votre quartier, dans votre village, et qui eux aussi écoutent là-bas, si j'y suis, qui écoutent France Inter. Alors que, ben, vous le savez pas, on est peut-être un voisin, une voisine qui écoute là, voilà, et qui aimerait se retrouver. D'où notre idée, notre proposition, de vous retrouver dans des repères, les repères de là-bas si j'y suis, les repères des amis de là-bas si j'y suis, c'est-à-dire des bistrots un peu partout, n'importe où, dans un village, une ville, un quartier, où vous pouvez vous retrouver. Alors, on reçoit beaucoup de propositions, soit d'auditeurs, soit de cafés, de bistrots qui nous écoutent et qui disent, ben voilà, moi je propose tel jour, telle heure, etc. Alors on se renseigne, on vérifie, on rappelle, etc. Et pour l'instant, il y en a un qui marche, qui a l'air très très sympathique. C'est un bistrot qui est à Sarlat, dans le Périgord. Alors j'ai pas le nom du bistrot là dans le document qu'on m'a donné, mais le patron s'appelle Franck Champoux. C'est 5 rue Jean-Jacques Rousseau à Sarlat, et les rendez-vous, vous pouvez vous retrouver, c'est ce que propose le patron Franck Champoux, le vendredi à 21h, vendredi à 21h, à partir de ce soir, et le bistrot s'appelle le Libéron. Libéron, j'ai pas très bien compris au téléphone avec son accent. Voilà, donc ça ce sera un bistrot, c'est un des repères de là-bas si j'y suis, je répète, Libéron ou Libérou, ce soir à partir de 21h, et donc tous les vendredis, si vous êtes d'accord, entre vous, et puis le patron, c'est Franck, 5 rue Jean-Jacques Rousseau, à Sarlat, c'est dans le vieux Sarlat, il paraît que c'est un très bel endroit, un très beau bistrot, très sympa. Aujourd'hui, esprit de suite. On aime bien revenir et suivre les histoires, comme on dit, qu'on vous a racontées, ou plutôt les reportages qu'on vous a présentés. Que deviennent-ils ? Que devient Khalil Béchir et les siens ? Nous avions rencontré cette famille en mars dernier à Gaza avec Guy Van Til, et au cours de l'été, au cours du désengagement, du retrait de Gaza, évidemment, on n'arrêtait pas de penser à eux. Est-ce qu'ils ont fait la fête avec leurs voisins israéliens, comme ils l'espéraient, comme ils nous l'avaient dit à la fin de ce reportage, un reportage qui vous avait passionné en mars dernier, la maison de Béchir, l'histoire de cette maison et de cette famille prise en otage depuis bientôt 5 ans par l'armée israélienne. Mais le ton de Khalil Béchir et de sa famille, pour une fois, dans ce conflit à la fois, cette sorte de nœud lourd, cynique et pervers à la fois, constituait un vent frais de sincérité, d'aspiration, disons-le, à la paix. Depuis le début donc de l'intifada, depuis octobre 2000, leur maison a été prise en otage à cause de sa proximité avec une colonie, la colonie de Kfar Darom, occupée par des colons particulièrement radicaux, qui appelaient la maison de Béchir la maison des snipers, qui appelaient parce que, eh bien maintenant, ces colons sont partis. Alors, que sont devenus les Béchir et toute cette famille, c'est ce qu'on a voulu savoir. Mais d'abord, on va revenir en arrière, on va revenir à ce reportage de mars dernier. Il faut rappeler un peu la situation de Gaza. 1,5 million de Palestiniens d'un côté, et de l'autre 7,000 colons. 1,5 million et 7,000. 40% des terres étaient occupées par les colons, qui utilisaient 50% de l'eau. C'était une pression quotidienne, un harcèlement acharné contre les Palestiniens. Alors, aujourd'hui, évidemment, ce retrait est vécu à Gaza, sinon comme une victoire, au moins comme un soulagement, même si la situation semble très chaotique à Gaza, et s'il convient probablement de montrer un optimisme tempéré sur la situation dans ce conflit du Proche-Orient. Pour certains, Sharon apparaît comme une colombe magnanime, une sorte de personnage historique à la De Gaulle. Il faut oublier que durant le désengagement de Gaza, la colonisation se poursuit de plus belle en Cisjordanie et à Jérusalem Est. Et puis c'est peut-être ignoré des voix comme celle de Monsieur Dov Weisglas, qui est le plus proche conseiller du président d'Ariel Sharon, du premier ministre Ariel Sharon, et qui disait, je cite, le désengagement est le formol, il fournit la quantité nécessaire de cette solution pour éviter un processus politique avec les Palestiniens, ou encore Condoleezza Rice, qui en juillet proclamait que les blocs de colonies de Cisjordanie, je cite, feront pour toujours partie de l'État d'Israël. Comme disait cette auditrice tout à l'heure, on n'a pas le cul sorti des ronces. Espérons que l'avenir ne donnera pas raison à cet excellent observateur du conflit israélo-palestinien qui nous disait en mars dernier « La troisième intifada sera terrible ». Alors voilà, on remonte d'abord dans le temps, on est en mars dernier, on est à Gaza et on s'approche avec notre ami traducteur de la maison des Béchir. La colonie, elle est juste là derrière.
Elle est juste derrière. Là. Même le soldat israélien est en train de le voir. Hein. Aujourd'hui, c'est grâce à cette trêve qu'on a pu venir jusqu'ici. Mais pendant 3 ans, personne ne pouvait mettre les pieds ici.
Donc là, il y a un mirador. Les militaires surveillent et nous voient très probablement. C'est bien évident.
Bien sûr, ils nous voient.
Ils laissent faire là parce que c'est la trêve. Et effectivement, là, on voit une maison avec un toit rouge. Et c'est la maison d'un colon, quoi. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît les maisons des colons.
Voilà.
C'est qu'elles ont des toits rouges. Et lui, ici, là, c'est une enclave. La maison devant laquelle on est, c'est la maison de Béchir.
Les maisons de Béchir, à votre jour.
Il y a une jeune fille qui vient nous voir.
Son père, c'est lui, Béchir, et il est en travail, il va sortir de son travail à 1 heure. Mmh. Ah, et là, sa mère, elle est ici uniquement. Et, mais nous, qu'est-ce que ça veut dire, le Wahdi, ou ça l'a dit, un coup?
هو أصلاً ممنوع محفوظ تطلع لأنه محفوظ تطلع بأذن
منهم؟ Je viens de lui dire, c'est depuis quand c'est autorisé à nous de venir jusqu'ici? Il me dit, en principe, c'est interdit. Vous êtes les premiers. Vous devez demander autorisation auprès d'eux. Je ne sais pas comment vous êtes jusqu'ici. J'aimerais bien vous sortir tout de suite.
Ah, parce que vous êtes inquiète, ça vous inquiète?
Disait oui, s'il y a un peur et il y aura un problème avec nous. Je vais demander à ma mère. Elle va vous expliquer.
C'est la dame qui arrive.
كان لسه قبل اسبوع مسكر هذا بتلال رمل فتحوها وقالوا اذا حد بيمرق حنرجع نسكرها
il disait il y a même pas une semaine qu'il y avait ici des barricades de sable et de terre c'était fermé ils l'ont ouvert ils l'ont dit si personne va rentrer ici on va la refermer encore donc c'est interdit que vous restiez ici
ah si quelqu'un entre il referme la barrière donc là on est en train de les mettre en risque
oui
انزل يلا
elle disait c'est difficile il faut pas rester
I'm afraid maybe the soldier come now.
J'ai peur que les soldats viennent.
Ok.
لا ولا صحابي حكم هو مش انطخوا ابني في يوسف في ظهره في العمود الفقري.
Son travail à l'école.
زي الحين السنة اللي فاتت زي الحين طخوه في ظهره. الشظي في العصب.
ليش؟
والأمم المتحدة واقفة عند العمود هذاك وابني بعمل لهم هيك.
Je viens de lui dire mais qu'est-ce qui va se passer s'ils vont venir ils vont nous trouver ici ils vont constater qu'on est journalistes. Mais l'année passée dans la même période mon fils il était en train de saluer les Nations Unies comme une délégation des Nations Unies était ici l'Israël il y a devant leurs yeux ils ont tiré sur mon fils ils ont touché son colon vertébral avec une balle donc c'est rien n'est garanti. Il a informé qu'à partir de maintenant, ils ont enlevé ces barricades, c'est interdit que personne ne va rentrer chez vous. Donc, ils m'ont dit que si une fois on va constater que quelqu'un qui est venu ici, qu'on pourra, je suis sûr qu'ils vont venir maintenant les soldats, il nous a dit qu'on va faire le tour de votre maison, une série des montagnes de terre.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, la maison des Béchir.
Flight number 2, arriving from New York.
قالوا لي طيب من اليوم وصاعدا بدك تعرف انه بيته مقسم الى 3 مناطق A, B, C.
On m'a dit que à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ta maison est partagée en 3 zones. Zone A, B et C.
A, B, C.
Voilà, ça c'est le fiston qui a été blessé. Il a pris une balle dans le dos, le garçon.
Mais il a encore des éclats. Les médecins ont décidé de ne pas aller chercher les éclats qui sont encore dans son corps.
Ça part ?
Thank you.
Et c'est triste, c'est très triste de voir un enfant à qui on apprend d'exploser pour la Palestine. Vous ne verrez jamais une mère israélienne dire « Je veux que tu meurs, que mon fils, je sacrifie mon fils ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, cet état d'esprit. Je me rappelle ce que Golda Meir avait dit. Le jour où ils aimeront leurs enfants plus qu'ils nous haïssent, là on aura la paix.
Vous parlez des Palestiniens ?
Oui.
أنا عايش في deserted island. I am in a deserted island. أنا ما فيش عندي من المدرسة للبيت. بعد الساعة خمسة أنا مسجون ما تقدرش أطلع.
Moi, je vis dans une désert, quoi.
Une île déserte.
Et je peux pas contacter les autres parce que de l'école à ma maison et à partir de 5 heures je peux pas sortir de ma maison. C'est interdit. Je suis isolé.
Deir al-Bala, c'est au milieu de la bande de Gaza et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui, côté Gaza. Et je dis côté Gaza parce que jouxtant la maison où nous nous trouvons se trouve une implantation, une colonie qui s'appelle Kfar Darom. Et alors jouxtant, c'est vraiment mur contre mur. Et entre cette colonie, l'une des maisons de cette colonie et la maison où nous sommes, eh bien, il y a un dispositif militaire, il y a un mirador de l'armée israélienne. Pourquoi ? Parce que la maison où nous nous trouvons, celle de la famille Béchir, celle de Khalid Béchir et de ses enfants et de son épouse, eh bien, est prise en otage depuis des années, depuis le début de cette seconde intifada. Cette maison est prise en otage, cette famille est prise en otage, assignée à vivre au rez-de-chaussée, tandis que les étages, premier et deuxième étage de la maison, sont occupés et à la disposition permanente de l'armée israélienne qui a fait de cette maison un point stratégique. Et ça a été une vie infernale qu'on a du mal à imaginer pour cette famille pendant toutes ces années. Et voilà que la perspective du retrait prochain de la bande de Gaza par l'occupant israélien va libérer ce lieu et cette famille. Et c'est le récit de cette imminente libération que cette famille nous fait aujourd'hui par une journée de printemps, peut-être à Gaza, tandis que colombes et pigeons nous surveillent.
Tu vois la mirador là israélien, c'est juste en face, on est à 100 mètres là. On est à 100 mètres, aujourd'hui avec la trêve, on peut avancer avec la voiture, l'autre fois on peut pas marcher. Et la maison de Béchir, à gauche c'est la colonie de Kfar Darom.
Et on voit là, il y a des, un peu encore des maisons arrosées d'impact
partout,
de balles.
Partout.
Des maisons entassées les unes sur les autres.
Ouais. Ou, si vous voulez, on doit descendre pour pouvoir avancer, pour voir la maison, parce qu'on peut pas avancer encore avec la voiture. Regarde la discussion, ici c'est des arbres, et c'est sa maison. Regarde, elle a été occupée par les soldats israéliens au premier, deuxième étage. Voilà ce qu'ils ont laissé derrière eux.
Le camouflage.
Oui, le camouflage et le machin. Ils ont pris sa maison comme un mirador de contrôle.
Voilà Khaled Béchir qui va vers la guérite. On voit le soldat là qui est derrière sa petite lucarne, sous le camouflage. Il a sa petite fille, ouais, c'est vrai qu'il le suit. Et puis il avance en l'air et il crie « Journalist who want to interview me ?»
Il parle pas bon anglais, là.
Wait, d'accord, wait. Ah, il va consulter son chef maintenant. Il va appeler l'officier pour savoir.
C'est une situation extraordinaire. Monsieur Béchir est là, avec ses enfants. Il est en train de parler à un militaire planqué dans un mirador, sous un système de camouflage, de bâches de camouflage. Et il lui demande s'il peut recevoir des journalistes. Et le gars dans le mirador lui a dit, je vais voir mon chef. Devant nous, on a la maison otage, la maison des Béchirs. Le rez-de-chaussée, c'est la famille, et les étages,
C'est la zone B et la zone C. C'est-à-dire sous administration israélienne.
Avec des barbelés, avec des toiles de camouflage et des pigeons et des colombes.
Hein? Vous voyez, je suis pas libre chez moi, je demande la permission pour recevoir mes invités.
C'est vrai qu'au bout de son jardin, on voit la clôture électrique, et puis encore derrière des barbelés, et puis encore derrière des espèces de mâts avec des antennes. Ah, ça crie de la guérite. Il se retourne. Il est en train de se foutre de moi et il va pas répondre tout de suite, mais il fait exprès de me laisser attendre. Ces petites filles qui s'est assise sur les parpaings au pied de la clôture, ils attendent la réponse de l'officier. No problème, apparemment.
Il n'y a pas dit thank you for this.
On est avec M. Ali Béchir, là, chez lui, dans son jardin. Mais juste derrière nous, c'est-à-dire dans son dos à lui et face à moi, il y a un mirador de l'armée israélienne, qui est à 50 mètres, qui nous regarde. Ah, il est très prudent, sa femme n'est pas du tout rassurée, parce que il est arrivé que les militaires israéliens donnent l'autorisation à des personnes d'entrer dans la zone ici, il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, mais ils ont tiré quand même, sur son fils qui a été blessé à la colonne vertébrale. Donc, ils sont à moitié rassurés, mais c'est une situation absolument délirante.
بعد خمس أيام من اندلاع الانتفاضة الأخيرة وبالضبط في 12 000.
Après 5 jours de déclenchement de la dernière intifada, exactement le 2-10-2000.
سقط على بيتي صاروخين.
Il est tombé sur ma maison de domicile.
عادوا الكرة وقالوا لي طيب إذا بدك إيش تطلع ممنوع تستقبل حد ممنوع تلف حول البيت ممنوع تطلع على السطح.
Et après cela, on m'a dit, si puisque tu veux pas sortir de ta maison, donc tu dois savoir que tu as l'interdiction de faire le tour de la maison, de sortir de la maison et de monter sur le toit de ta maison. Donc je leur dis que tout ce que je peux faire, je vais le faire, sauf de sortir de ma maison, sauf si je suis mort.
Je préfère mourir que de quitter ma maison.
Exactement.
واللي حدث بعد هيك 3 شهور متواصل القصف على البيت وأنا ولادي معتصمين في غرفة اعتقدت إنها الأكثر أمان.
Et après cela, durant 3 mois, les tirs chaque jour, il y a des tirs contre la maison. Et moi et mes enfants et ma petite famille, nous étions tous dans une seule chambre, là où nous sommes en sécurité.
قالوا لي طيب من اليوم وصاعدا بدك تعرف إنه بيتك مقسم إلى 3 مناطق A, B, C.
Donc, on m'a dit que à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ta maison est partagée en 3 zones. Zone A, B et C.
وأضاف أيامها. قال لي B و C ملكنا ملكهم هم. A ملكك بس جزئيا لا يحق لك تستقبل اي حد الا التصريح منه.
Il m'a fait une explication sur la répartition de ma maison. Il me disait le B et le C, c'est notre bien, c'est notre propriété. Et la zone A, là où tu es, c'est une propriété à toi partiellement, suivant nos décisions.
C'est une concession que nous te faisons d'être chez toi seulement au premier étage. Le deuxième et le troisième étage, c'est à nous, c'est-à-dire que c'est nous, armée israélienne, qui contrôlons ton premier et ton deuxième étage.
A, B, C.
Tu dois savoir que ta maison est partagée en 3 zones. Zone A, B et C.
« ainsi Khalil Béchir et sa famille s'accrochent, se maintiennent, résistent. C'est une résistance passive. Les anciens se souviennent de ce que ça veut dire, ce que ça voulait dire pendant la Seconde Guerre mondiale que cette résistance passive. Pourquoi est-ce qu'il veut rester absolument là, Khalil Béchir, alors que lui, c'est une vieille famille, il appartient à une vieille famille qui n'a pas été chassée, qui n'a pas quitté Gaza en 1948. Les terres qui sont autour lui appartiennent, lui reviendront peut-être un jour, mais il veut rester là justement parce que ceux qui sont partis ne sont pas revenus depuis 1948. Et puis aussi parce que en décembre 2000, peu après le déclenchement de cette seconde intifada, il avait un frère qui a été complètement épuisé rapidement par ses tirs incessants, par ses pressions et cette répression permanente et ses menaces, et il a décidé de partir. Eh bien, dans l'heure qui a suivi son départ, les bulldozers ont détruit sa maison dans les 24 heures. Alors, évidemment, voilà, ce qui fait que cet homme, qui est un résistant, mais qui n'est pas engagé militairement dans des unités combattantes, qui est un musulman, un croyant, mais qui n'est pas un islamiste extrémiste, eh bien, il reste tout simplement là, parce qu'il considère que c'est sa terre, que c'est sa maison et que c'est son droit. Tout le monde veut la paix, bien sûr, hein. Mais qu'est-ce que tu vois comme possibilité, toi? Tu vois quelle division du pays?
D'abord, moi, je crois que l'humanité, c'est notre maison. Et je pense que la vie de l'être humain, elle est plus chère que la terre. C'est pour cela que je suis convaincu qu'on peut arriver à avoir une solution entre deux.
Mais quelle est la solution?
وإقامة دولة فلسطينية في حدود 67 العودة إلى خطوط 4 يونيو قبل 67
La solution, c'est de retourner aux frontières des 67, d'accepter cette solution et d'avoir l'État ici.
Ici et en Cisjordanie.
غزة والضفة الغربية.
Oui, Gaza et la Cisjordanie.
والقدس.
Et la Jérusalem.
القدس الشرقية.
Est.
Jérusalem Est. Et le retrait des implantations, le retrait des colonies en Cisjordanie.
كامل للمستوطنة.
Le retrait complet. Parce que les colonies, c'est des bombes à retardement.
Des bombes à retardement. Et la question des réfugiés palestiniens qui voudraient revenir en Israël, puisqu'ils y ont des terres, ils y ont des maisons, ils y avaient des maisons. Qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés?
Si on prend par sentiment, on peut comprendre et s'y justifier leur envie de retour chez eux. Mais
ولكن الواقعية السياسية والواقع على الأرض اليوم يفرض على من يسعى إلى حل سلمي أن يتنازل ويلتقي مع الطرف الآخر في منتصف الطريق. فعلى هؤلاء أن يكونوا واقعيين ويتخلوا عن هذا الحلم.
Mais les faits et la logique et la réalité sur le terrain nous poussent tous d'abandonner ce rêve et accepter une solution intermédiaire.
Donc,
mais il devrait avoir un soutien moral et international, et ce n'est pas un genre de lâcheté ou bien non, c'est un acte courageux pour pouvoir vivre en paix.
Et une sorte d'indemnisation. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est le projet de Genève.
أنا لا أبالغ إن قلت أن جنيف مقتربة مني لأن أفكاري سبقت جنيف.
Je vais pas exagérer en disant peut-être que les propositions de Genève ont été inspirées de mes pensées parce que moi j'avais cette idée avant qu'il les déclare.
وأنا على قناعة لو أن الزعماء في الجانبين لهم نفس أفكاري في التسامح.
Et j'ai la conviction que si les deux côtés ils avaient la même politique pragmatique que j'ai, nous aurions déjà pu avoir une solution entre nous.
Pour toi aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment on est entré dans une trêve? Est-ce que pour toi aujourd'hui c'est la fin de l'intifada?
Je pense qu'on est en train d'approcher à la fin de l'intifada. N'oublie pas que je suis toujours optimiste. C'est ma nature. Et maintenant, je vous invite à manger avec moi un coup et après on va prendre.
Et après on va continuer, mais entre temps, pendant qu'on a toutes ces paroles optimistes, jamais perdre de vue que face à nous, il y a quelqu'un qui nous observe avec des jumelles régulièrement. Là, on regarde, il suffit de lever les yeux et on voit depuis la petite guérite le soldat israélien qui nous observe avec ses jumelles.
Ah, même pas 100 mètres, hein. Pas 100 mètres.
Il regarde et puis Khaled Bachir nous dit aussi qu'il y a des appareils sur le toit par lesquels on peut être observé.
Ah, il y a des caméras là. Là, il y a une caméra au-dessus de nous.
Ouais. Souriez, vous êtes filmé. Voilà. Et voilà, on est servi des super courgettes farcies.
Génial.
Thank you. Why not? Ah, it's a pleasure. For you.
What's your name?
Youssef.
He was shot.
Lui, là, on lui a tiré dessus.
Ah, c'est toi qui as été blessé? Voilà, ça, c'est le fiston qui a été blessé. Qui a pris une... Ah ouais. Oh là là. Dans le dos, il a pris une balle dans le dos, le garçon.
Mais il a encore des éclats. Les médecins ont décidé de ne pas aller chercher les éclats qui sont encore dans son corps.
Mm-hmm. Yes. A team of experts decided that he will suffer from problems in the future.
Et les médecins sont à peu près sûrs qu'il va avoir des conséquences, des effets secondaires dans le futur.
Ça part. Il faut rappeler que la solution dont parle Khalil Béchir dans sa maison de Gaza, dans son jardin, étrange jardin, cette solution-là, elle est partagée, cette idée-là, et ce plan est approuvé par l'opinion israélienne. En majorité, plus de 60% d'Israéliens sont favorables au désengagement et à une solution comme celle qui vient d'être évoquée, qui n'est pas nouvelle du tout. Hein. Khalil Béchir dit qu'il y avait déjà pensé. Enfin, on sait bien que beaucoup y ont pensé et que ce projet a fait son chemin depuis aussi longtemps. Mais ce qui s'y oppose, on le sait, c'est toute cette idéologie ethnico-religieuse qui, effectivement, de chaque côté, bloque dans un mouvement régressif et très exploité par les pouvoirs qui bloquent le cheminement vers la paix. C'est des courgettes farcies. Hein. Des courgettes farcies qu'on vient de déguster, c'est vraiment délicieux. Hein. Courgettes farcies avec soit du riz, soit du blé cassé et un peu de viande hachée.
Avec persil.
Voilà, c'est tout à fait agréable.
Et puis en plus, il y avait des olives. Mais simplement, M. Béchir, c'était désolé de ne pas pouvoir nous faire goûter ces olives. Parce que là, sur le terrain vague qu'il y a derrière nous, avant, c'était ces oliviers, ces orangers, ces serres qui ont été rasés.
Anna. لا أشكو بقصد استعداء العالم عنهم أو عمل دعاية إنما أنا بقرر الواقع.
Moi je suis pas en train de réclamer ou bien de faire des plaintes pour que je déclenche une haine contre eux. Non, c'est uniquement je suis en train de citer les faits.
وهذا نتيجة العداء بيننا وبينهم وصلنا إلى هذا الدرك الأسفل من الإنسانية إنه ما يحترمش إنسانيتي ويخاف مني نتيجة العداوة اللي نفسنا نقضى عليها.
Et ça c'est le résultat de cette haine qui les a poussés à ne pas me respecter comme un être humain et de venir à ce stade dégradant de non-respect.
Forme de résistance passive, c'est le Gandhi de Gaza.
Non, je ne deviendrai pas violent. Non, je ne deviendrai pas fou.
Ben oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un moment, la non-violence et la non-folie.
Tu sais, c'est l'entretien psychique avec la présence multiple et de l'importance à prouver à ce monsieur-là par la presse, les ONG, les lettres qui venaient ici, même s'ils n'arrivent pas à les lire, ça lui donne beaucoup de courage.
Toutes les lettres qu'ils ont reçues dans les cartons, ils ont reçu des lettres du monde entier à cause des reportages, à cause des ONG. Les milliers de lettres qui sont dans les cartons, ils les ont gardées.
N'importe quel être humain, si il constate qu'il y a un soutien moral de tout le monde qui te donne l'importance que tu existes, tu vas dépasser largement la zone de ne pas savoir ce que tu vas faire.
Mm-hmm.
Et tu seras redressé vers la bonne voie. C'est pour cela, M. Bachir, il sait parler, il sait manifester, il sait révolter, il sait comment faire convaincre le monde entier, ce qui a donné l'importance de sa résistance aidée à la monarchie.
Mais est-ce que par moment, tu n'as pas eu envie de partir, dire bon, allez hop, ça suffit, c'est mauvais pour les enfants, c'est mauvais pour ma femme, on devient fou, on va devenir fou, allez, partons, tant pis.
أنا بحب بيتي وأنت تعلم أن المحب مستعد يضحي بحياته من أجل الحبيب على أن حبيبي أنا هو أرضي وبيتي.
Moi j'aime ma maison et comme vous savez celui qui aime il peut se sacrifier et puisque ma maison c'est mon amour donc je dois rester dans ma maison parce que je l'aime.
على أن ما يؤلمني إني خايف في المستقبل أولادي يعانوا من بعض المشاكل النفسية.
Je dois avouer que dans l'avenir j'ai un risque que mes enfants vont souffrir des conséquences psychiques.
Mais est-ce que tu as des relations avec les colons? Est-ce que tu as parlé avec les colons et qu'est-ce que tu penses d'eux?
Je suis
très heureux que vous avez posé cette question.
أليمة مع المستوطنين في 92 المستوطنين هم اللي دخلوا بيتي وكسروا وحطموا حماماتي.
La seule relation que j'avais avec les colons, c'était une seule mauvaise souvenir, c'était 1992. Ils sont rentrés chez moi, ils ont détruit tous mes
seins.
J'ai fait beaucoup de tentatives à travers les journalistes de les inviter de venir me visiter ici chez moi et qu'ils m'invitent d'y aller chez eux et de vivre en paix. Ils ont refusé et on m'a répondu, je vais vous montrer
ce qu'ont dit les colons dans un article
colons,
de presse.
Oui.
Un article qui s'appelle Un homme de paix avec l'armée sur son toit.
Un homme de paix avec l'armée sur son toit.
D'après l'article, il y a 40 familles qui vivent dans la colonie. Et ils appellent la maison de Bachir la Sniper House, la maison des snipers. Et ils pensent que l'armée a été trop tendre avec lui. Et Sarah Friedman, une professeure qui est née aux États-Unis, qui habite dans la colonie, elle dit chaque matin, nous nous réveillons. Et nous rêvons de voir la maison du sniper détruite. Et chaque jour, c'est une surprise de voir qu'elle est encore là. Même si ces gens ne nous tirent pas dessus, et même si c'est pas de leur faute, s'il y a effectivement des gens qui viennent de là pour nous tirer dessus, cette maison devrait être détruite.
Ces colons sont quelques milliers dans la bande de Gaza. On va en parler dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent lors du retrait. Ils sont près de 8000, alors que autour dans cette bande de Gaza, c'est l'endroit de la planète le plus peuplé avec 1 400 000 Palestiniens qui sont entassés. Et ces colons répartis en 21 colonies sont protégés par 6 bataillons militaires qui sont en permanence déployés sur place, c'est-à-dire 2500 soldats avec 400 militaires qui protègent notamment la 60aine de familles de la colonie de Kfar Darom, c'est-à-dire celle à côté de laquelle nous trouvons, une des colonies les plus idéologiques. Les gens qui sont là sont habités par une certitude, c'est que cette terre a été donnée par Dieu et qu'il s'agit de la préserver bien évidemment et que toutes les autres considérations passent au second plan, à commencer évidemment par la vie des voisins.
J'ai une photo de sa maison où on ne peut pas aller.
Les parties de la maison où on ne peut pas aller, oui.
Où il y a des centaines de douilles qui ont été ramassées. Des douilles de pistolet mitrailleur et avec laquelle ils ont écrit les lettres PEACE.
PEACE, P-E-A-C-E, PEACE, entièrement écrit avec des douilles alignées, posées les unes à côté des autres.
هذا الان موجود جوا. مرسوم هيك. اولادي كتبوه بالرصاص الفاضي.
موجود جوا. Elle est toujours là-bas. C'est mes enfants qui l'ont fait.
C'est quoi ça, to the jail?
Yeah.
To the jail.
And now it is written, my daughter, she wrote to the jail. because the room in which we are always imprisoned, every night the soldiers come and see it.
C'est quelque chose aussi qu'on peut pas voir, puisque comme on est sous l'observation des soldats israéliens, on peut pas rentrer dans la maison. Mais devant l'entrée de la porte, où toute la famille est obligée de dormir tous ensemble dans la même chambre, sa fille a écrit « To the jail », vers la prison. Comme ça, quand les soldats israéliens viennent le soir, ils savent où est la famille, dans la prison, dans la pièce où ils sont tous les uns sur les autres.
Bon, ça c'est une question d'intimité. On n'a pas la chance de vivre notre vie normale, de couple. Là, tout simplement parce qu'on est vraiment occupé à l'intérieur de ma maison. Il ne peut pas passer la nuit avec sa femme. Parce que tous on est dans la même chambre en plus. J'ai payé très cher cet sacrifice, et tout simplement pour pouvoir élever mes enfants et les entraîner pour ne pas avoir une haine sans connaître notre adversaire, pour pouvoir vivre avec lui dans la lumière. Parce que si mes enfants vont avoir cette haine, les conséquences seront dans l'avenir.
Le jour du retrait, ça ressemblera à quoi pour toi ce jour-là? Est-ce que ce sera un jour de victoire?
Moi, je vois pas les choses par un gagnant et un perdant. Je dis que c'est la paix qui a gagné.
Et
à ce moment-là, je vais faire une fête ici et je vais veiller sur l'invitation des Israéliens avant tous les autres, de toutes les autres nations, qu'ils assistent à cette fête.
Ah, tu veux inviter les Israéliens à la fête ici?
Non. الإسرائيليين يجوا في المكان هذا وراح أكون حريص لو ما جوش هو راح أعتبر الاحتفال ناقص.
Oui, j'ai insisté que les premiers invités à cette fête, ceux des Israéliens, s'ils ne vont pas venir, j'aurai le sentiment que la fête elle est manquée.
Ça va te faire drôle après, non? Comment tu vas vivre après le retrait? Reprendre une vie normale?
بالتأكيد بس راح نحس بفراغ من الناحية الشرقية.
Absolument, bien sûr. Mais je vais constater qu'il y a un vide à mon côté est.
Ils vont te manquer.
صدقني انه راح اشعر بانه فقدت شيء رغم انه هذا الشيء مؤلم لانه انا على قناعه انك انت حتى من المأساة ممكن تتعلم درس.
Oui, sincèrement, je vais sentir qu'il y a un vide parce que même du mal, tu as une leçon.
بدي أشكرك وأرحب فيك وتحياتي للفرنسيين الشعب الفرنسي الصديق ورجاء حارا.
D'abord, je vous remercie de votre visite. Je remercie le peuple français à sa position de soutien. Et j'aimerais bien vous transmettre un message aux Israéliens surtout, de leur dire que le moment est venu qu'on puisse vivre ensemble et en paix, tout simplement pour que nos enfants puissent vivre loin de la haine avec vos enfants et l'avenir de nos enfants.
Est-ce que ton fils là pourrait épouser une israélienne?
Les malins.
Pourquoi pas? Si son choix tombe sur une israélienne, hein, je ne vais pas l'interdire.
Et ta fille?
إذا قررت اختارت بس لا أعتقد أنها تختار بس إذا قررت أنا راح أحترم قرارهم يعني.
Je pense pas qu'elle va choisir une israélienne, mais si elle a choisi une israélienne, je vais respecter son choix.
Ok.
Le fils, simplement, le fils, lui, il est moyennement d'accord d'épouser une israélienne. Il dit, ça risquerait d'avoir l'intifada à la maison.
Thank you very much. Good luck.
Salam alaikum.
Bye.
Alors voilà, tout ça c'était au mois de mars dernier, ce reportage à Gaza avec cette famille. Et depuis le mois de mars, eh ben, il s'est passé bien des choses à Gaza. Il y a eu ce désengagement, il y a eu ce retrait. Et on a pensé à eux évidemment tout au cours de l'été, notamment à la deuxième quinzaine du mois d'août. Et on a voulu savoir ce qu'ils sont devenus. Bien évidemment, il y a quelques instants, avec Give et notre amie irakienne Walla, on a appelé la famille Béchi, on a réussi à les retrouver, enfin à établir une ligne téléphonique avec eux, et on a eu, il y a quelques instants, la famille au téléphone.
Welcome, happy to hear your voice again.
Do you remember us?
Yes, I do remember you.
Allez, on a beaucoup pensé à toi et à ta famille parce qu'on a vu toutes les images et on a suivi le désengagement de Gaza. Et on a pensé à toi parce que tu nous avais dit, lorsque les colons israéliens partiront, eh bien, on fera une fête. Alors, est-ce que tu as fait cette fête avec eux? Parce que ton projet, c'était de faire une fête avec eux.
كنت أتمنى لو زرتوني في البيت لتشاهدوا الجنود وهم يقيمون في بيتي ويحبسونني وأسرتي في غرفة واحدة.
J'aurais aimé que vous me visitiez chez moi pour voir les soldats, comment ils encerclent ma maison, comment ils nous traitent.
Parce que tu es dans quelle situation? Décris-nous la situation dans laquelle tu es maintenant actuellement.
Je suis comme dans la Bastille française.
C'est-à-dire que tu es toujours prisonnier, vous êtes toujours encerclé.
Oui, depuis le 15 août jusqu'à aujourd'hui.
تخلى مواقعهم يأتون إلى بيتي واتخذوه الآن موقعا بديلا.
Les colons ils sont partis mais les soldats ils sont toujours là, ils veulent ma maison comme base.
Pour bien comprendre là, tu veux dire qu'en ce moment où tu nous parles de ta maison, il y a l'armée israélienne qui est présente dans ta maison.
ليس يحاصر هو عندي ويقف فوق رأسي وأنا أتحدث معكم والبعض منهم نائمون والبعض جالسون على الكراسي أمامي وفي الكوريدور.
Ils sont dans la maison, ils sont sur ma tête, ils dorment sur le lit, certains dorment sur le canapé.
Et ils écoutent ta conversation.
نعم إنه الآن فوق رأسي مباشرة ويتصمت ويسمع ما أقول. وأعتقد أنه لا يعرف العربية ولكنه يشير إلى أنني مراقب من قبله.
Oui, ils sont sous ma tête, ils me surveillent, mais je pense qu'ils ne parlent pas l'arabe et ils me disent qu'on vous surveille.
Il y en a combien? Ils sont nombreux?
Il y a 5 soldats israéliens à côté de moi, ils me surveillent.
Et tu es avec ta femme et tes enfants?
Nous sommes tous ensemble ici dans la chambre avec ma femme et mes enfants et les soldats ils sont là, les 5 soldats ils sont là.
Si bien que tu ne sais pas quel est le climat en général dans Gaza.
Non, évidemment je suis isolé, coupé du monde.
ولكن النقل النوعي في معاملتهم منذ الخامس عشر من أغسطس هي أنهم يحبسونني في غرفة واحدة وأسرتي ليلا ونهارا. إنما اعتادوا في السابق على سجني في الليل وفي الصباح يتركونني.
Auparavant, ils m'enferment la nuit, mais le matin, je pourrais sortir. Mais depuis le 15 août, ils m'enferment avec ma famille, avec les enfants dans une chambre. Ils me laissent pas partir ni le jour et aussi la nuit.
Mais un jour, ils vont partir et ils vont te rendre ta maison.
Je résiste sous la pression dans ma maison.
Ils
ont violé ma maison, ils ont violé mon intimité, ils ont violé tout. Ils dorment sur mon lit, mais je résiste encore et je suis encore là.
D'accord, mais est-ce qu'ils vont partir? Ils ne t'ont rien dit.
Non,
ils n'ont rien dit.
Tu nous avais dit, quand on t'avait vu au mois de mars, que lorsqu'il partirait, tu ferais une fête avec tes voisins de la colonie à côté. Donc ça, t'as pas pu le faire, si je comprends.
نعم ولا زلت لأن عيني على المستقبل ولا أعتقد أن انسحابهم يجب أن يكون نهاية المطاف لعلاقة بيننا وبينهم.
Je le pense toujours, je voudrais le faire toujours, et je pense que le désengagement de Gaza n'est pas la fin de notre relation avec eux.
Ça veut dire que tu pourras les revoir un beau jour.
هذا ما أتمناه وأتمنى أن تكون هناك علاقات صحية علاقات صداقة وتعاون بيننا وبينهم ولا خيار آخر إذا أردنا العيش في هذه المنطقة سويا.
C'est ce que je souhaite de mon cœur et je voudrais vraiment continuer à avoir des relations avec eux parce que ça c'est notre destin de vivre ensemble, continuer ensemble.
أنا فخور لأن أبنائي جميعا في حالة معنوية مرتفعة وفي نفسية صحيحة وبالنسبة لما ذكرتم من عزم إقامة احتفال بعد انسحابهم أحب أن أؤكد لكم ولهم وللعالم.
Je voudrais bien organiser une fête, mais si les Israéliens ne viennent pas à cette fête, ça sera vraiment très dommage. Et je pense pas que ça sera une fête réussie, parce que la paix se fait entre les ennemis. Et j'aurais aimé vraiment que les Israéliens viennent, nos amis, ceux que j'invite.
Ok, Khalil, on va te laisser. On te salue. Salut pour nous ta famille, et puis on vous souhaite évidemment tout le courage du monde pour tenir jusqu'au bout, et on espère que la fin de cette histoire est proche, et que vous pourrez vous retrouver libre et faire la fête avec vos voisins israéliens.
وأصدقائي الفرنسيين طبعا وشكرا لكم جزيلا إذا أتحتم لي فرصة الشعور بأنكم الرئة التي تنفست من خلالها فترة الخمس دقائق الماضية.
Je vous remercie énormément cette équipe française. Je remercie la France et les Français et vous êtes mes amis. Vous m'avez permis de respirer quelques minutes là et d'être avec vous à l'extérieur.
La prochaine fois, on ira faire la fête chez toi. On ira manger des courgettes, les courgettes de ta femme.
طبعا أنتم مدعوون.
طبيخ زوجتك.
أنتم مدعوون بحرارة.
Vous êtes invité avec beaucoup d'amitié.
Shukran, shukran, ma salam.
Shukran.
Welcome. Bye bye. Bye.
Voilà, merci à tous, merci à Khalil Bachir et à sa famille, à notre traductrice Wala Saïd à Paris et à Raja Bega à Gaza. C'était une rediffusion d'une partie de cette émission à Gaza de mars dernier. Technique aujourd'hui Olivier Liotto et Rémi Quincé. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. J'avais oublié de vous le préciser. Réalisation Antoine Chao, Yann Chouquet et Raphaël Moutarde. Assistante Pascal Le Pascariello. Le répondeur c'est le 01 56 40 37 37. Le mail daniel.mermet@radiofrance.com. Voilà, il est 17h59 sur France Inter. On se retrouve lundi à 17h pour la bassiste. Je suis un petit peu de réclame d'abord.